1, 2, 3, 4.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go.
Et alors, pas de
rock.
Je m'inquiétais. Les bébés dinosaures, comme tous les dimanches, 21h30 sur FMA, sur Canal Sud 92.2.
C'est les vieilles habitudes ont du mal à mourir.
Je me suis replongé dans mon passé ces derniers temps.
Voilà, c'est vrai que oui. On nous a demandé de faire une plongée dans notre passé.
Oui. Voilà. On en reparlera de cet excellent blog, Les Monstres Sacrés, qui a déjà fait plusieurs articles sur Digit et qui en ce moment publie les vieilles cassettes de Digit qu'on a enregistrées avec Jean-Luc et Nathalie il y a très très longtemps, au tout début de l'émission, c'est-à-dire en janvier 90.
Ah ouais, ils les ont digitalisés ou c'est,
ouais, c'est Christophe Guérinet et sa bande, et ils les ont digitalisés et les publient petit à petit sur le site donc des Monstres Sacrés, le blog des Monstres Sacrés, qui par ailleurs contient plein d'interviews, plein d'articles, plein de choses sur une scène qui correspond un peu quand même à ce que Digit explorait à son époque. Voilà, donc on en reparlera du blog Les Monstres Sacrés. Là, en attendant, c'est les bébés dinos, comme tous les dimanches, avec sa rasade de rock 70s au sens large, quelques petites merveille, précédé par, ça c'est un petit clin d'œil aux fans de Zappa qui nous appelait il y a deux semaines ou trois, là, d'un petit bout de We're Only In It For The Money, des Mothers of Invention en 68. Ça, c'était ce que vous avez pu entendre avant le générique et juste après le trash metal terrifiant qu'il y a quand même assez régulièrement dans les bandes d'animation de Canal Sud.
Bref. Oui, c'est un petit côté psychédélique sympathique. Mais je connais mal Zappa, j'avoue.
Ah!
Bon,
on va rattraper ça petit à petit.
Écoute, par contre, je suis sûr que beaucoup de gens connaissent pas le Blues Creation, qui était le groupe japonais de Kenzo.
Ah bah, tu l'as passé la semaine dernière.
Kenzo, je sais plus comment. Et écoute, comme c'était très bon, on va se repasser un morceau du même album, Demon and Eleven Children. Celui-ci s'appelle Brain Baster. Ne me demande pas ce que ça veut dire. Attends, non, c'est sur le CD2. Hein. C'est sur le CD2. Là, tu es en train de nous repasser, je crois.
Mothers of Invention. C'est le CD2, monsieur, non? Ah ouais, c'est sur la clé.
C'est sur la clé, ouais.
Ben oui. Ah, c'est le numéro 1.
Ah, pardon. Ben alors.
Ah, c'est Michael.
Ah, merde.
Des Albuquerque.
J'ai pas calé comme il faut. Alors,
ouais,
alors attends.
Le numéro, alors.
Tu vas meubler.
Parce qu'il ne peut pas me donner le numéro, tout simplement. Bon.
Ouais, je ne sais plus, je croyais que c'était le 1.
Et bien, on vient de s'écouter We May Be Cattle, But Je Ne Sais Quoi, par Michael D. Albuquerque. C'est un truc tout à fait obscur pour moi, en tout cas.
On y reviendra.
On y reviendra tout à l'heure, ça, je n'en doute pas.
Ouais, c'est le 1, mais c'est le 7.
Et là, voilà, c'est le morceau numéro 1, mais qui apparaît en numéro 7 sur la clé USB. Je vous explique, on ne fait pas exprès. Et donc on va s'écouter Blues Creation. Alors c'est furieux japonais, c'est plein de guitares, j'imagine, comme ça l'était la semaine dernière.
Ben ouais, c'est plein de guitares.
Eh ben c'est parti. Ah, ça y est.
Thank you.
écoute, instrumental, barré.
Assez sauvage à jouer. Voilà, Brain Baster. Je précise que Brain s'écrit B-R-A-N-E. Et j'ai complètement oublié ce que veut dire ce mot qui est assez rare quand même.
Oui, est-ce que c'est pas une faute d'orthographe ?
Peut-être, peut-être. Hein. C'était japonais, hein, donc...
Eh bien écoute, moi je vais enchaîner sur des inconnus aussi, ou relativement inconnus. Un groupe qui s'appelle Eagle. Eagle, pas au singulier, hein, je précise. Et qui en fait était formé sur les cendres de Beacon Street Union.
Oula.
Qui a fait deux albums psychédéliques apparemment. Entre 68, ouais, 68 par là. Et ils étaient de Boston. Ils ont, c'est à peu près les mêmes qui sont restés dans Eagle. Ils ont changé de nom. Je crois qu'il y a un membre qui a changé. Et Eagle a sorti, eux, un album. Et quelques 45 tours. Mais enfin, bon, ils n'ont pas eu une carrière très longue. On les retrouve notamment sur la compile The Room of Loud Sound. Ça, c'est prometteur quand même. Qui était sous-titré Heavy Psych of the USA 1968-1972. Et qui est la suite de la compile White Lace and Strange.
Ah, alors,
tu
attends,
te rappelles de ça?
Un peu.
On, oui. On a passé quelques extraits de ce premier volume. Le deuxième volume change un peu de nom. Alors, c'est plus White Lace and Strange, c'est The Room of Loud Sound. Mais c'est le même label. Et c'est un label britannique. C'est paru en 2008. Les deux compiles, 2008-2009, par là. Et c'est compilé, attention, par Beavis Frond.
Ah.
Et ce label, la Psychic Circle, ils ont sorti plein de trucs compilés par Beavis Frond.
Alors, oui, oui, on en a...
Ben voilà, les compiles plus ou moins psychés, etc. C'était sur ce label-là.
Ouais, ouais.
Ouais, d'accord. Bon, ben là, ils exploraient plutôt le psychédélisme américain, du coup. Enfin, assez heavy, quand même. Donc, et bon, on va s'écouter ce morceau Eagle, ce groupe Eagle. Sur le volume 2 de ces compiles. Alors, il précise, oui, voilà, c'est entre 68 et 72, donc à peu près tout est dans notre créneau. Et c'est plutôt pas mal, hein. J'ai trouvé au moins 5 ou 6 morceaux là, qu'on pourra passer tirés de ce volume 2 de ces compiles. Mais pour démarrer, donc, le groupe Eagle avec le morceau Pack Up, c'était en 1970.
Better leave my wallet when you go.
Et voilà, le groupe Eagle avec le morceau Pack Up. Il y a des cris un peu à la Rocky Erickson, je trouve. Ouais. Apparemment, le groupe précédent était encore plus psychédélique que ça. Mais c'est un des bons morceaux donc, qu'on retrouve sur cette compile. Donc, je vous redis le titre parce que je l'ai déjà oublié. Là, alors, je l'ai noté quelque part. C'est The Room of Loud Sound, Heavy Psych of the USA, 1968-1972. Sur Psychic Circle, ah, sorti en 2008.
Ouais, on peut compter sur Baby's Front pour nous trouver du psych, qu'il soit heavy ou pas.
Oui, c'est une très bonne sélection, effectivement. Là. Tu verras, on en écoutera d'autres dans les semaines qui viennent.
Ouais, et bien écoute, là je vais revenir dans le classique de chez Classique avec Led Zeppelin. Mais The Song Remains the Same, dans une version qu'on n'a jamais écoutée. Enregistrée, je crois, au Japon, à Tokyo, au Budokan, en 1972.
We'll be right back.
Song Remains the Same, qui était la chanson qui ouvrait Houses of the Holy, le cinquième album de Led Zeppelin. Mais ben là, c'est une version live, qui jouait d'ailleurs avant d'avoir sorti l'album, à ce moment-là, puisque l'album est sorti qu'en 73, je pense. Et ça, c'est la suite. Hein. Je suppose que notre joueur de CD, notre lecteur de CD doit être réglé en mode continu.
D'accord. Eh bien, on va revenir, on va rester en live, mais à Paris cette fois, en 1979, au Pavillon de Paris. C'est une salle que je ne connaissais pas en fait.
C'est un très grand truc qui était du côté de la Villette, une espèce d'ancien local industriel ou commercial dans lequel se tenaient les grands concerts. J'y suis allé je sais pas combien de fois.
Et oui, moi, j'étais trop jeune. Voilà. Quand j'ai vu Kiss en 80, le Pavillon de Paris était en voie de destruction en fait. Il était détruit. Et qui était à l'origine, enfin en tout cas à l'initiative de la construction de cette immense salle de 10 000 personnes? C'était Koski Cauchois Productions.
Ah oui, 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 bien sûr.
KCP.
KCP.
Les redoutables KCP qui organisaient tous les gros concerts en fait à Paris et puis ailleurs en France aussi. À cette époque-là.
Ils n'avaient pas construit le bâtiment, mais ils avaient dû l'aménager peut-être.
Ouais. Oui, et puis visiblement, ils avaient peut-être participé au financement, je ne sais pas. Mais
possible.
Disons que ce que j'ai lu sur ce bâtiment indique qu'ils étaient à l'initiative de la construction de ce bâtiment. Ce qui ne signifie pas que.
Ah ouais, quand même, de la, financé, la construction du bâtiment, je pensais que.
Ou de l'aménagement du bâtiment en salle de concert, en tout cas.
Ah oui, voilà,
ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Il me semble que le truc devait exister pour un.
Oui, c'est différent. C'est différent. En fait, voilà, il n'y avait pas de grosse salle de concert à Paris. Donc,
c'était là qu'il y avait tous les gros trucs. Je KCP, me souviens d'avoir vu les Kings, Pink Floyd, Blue Oyster Cult,
Aerosmith, Panache,
Cheap Trick, Todd Rundgren, Peter Frampton, enfin bon.
Il y a une liste assez énorme de concerts, effectivement. Et ben là, c'était parmi les derniers à passer dans cette salle, donc en décembre 79. C'était AC/DC. Avec une version de Led Zeppelin qu'on n'a jamais passée.
Alors, je les avais vus, mais en 77-78, parce que quand ils faisaient la première partie de Rainbow et de Black Sabbath. Deux concerts
affiche.
Successifs.
Ah, ben voilà, là c'était eux les vedettes, là.
En deux ans, l'époque avait changé. Ouais.
Voilà. Je ne sais plus qui faisait leur première partie, c'était indiqué, mais je ne me rappelle plus. Donc, Pirate AC/DC qu'on trouve, qui est simplement titré, je crois, 1979. Et derrière, tu as les indications des lieux où ça a été enregistré. Tout sur ce disque n'est pas enregistré à Paris, mais le morceau qu'on va s'écouter, si. Donc c'est Led Zeppelin Rock en 79 et c'est AC/DC. The white man had the stones, the black man had the blues. No one knew they were going to do, but Tchaikovsky had the music set. Let there be light, and there was light. Let there be sound, and there was sound. Let there be drums, let the drums. Let there be guitar, and there was guitar. Ah, let me rock. ça c'est un final typiquement 70s. Hein. Donc c'était AC/DC live en 79 à Paris, Let There Be Rock.
Eh bien, donc tout à l'heure on a eu par accident un petit bout de Michael de Albuquerque. Donc qui était Michael de Albuquerque? C'était le bassiste de Electric Light Orchestra.
Oh putain, tu me l'as déjà passé, oui, ouais. Ça me revient.
Mais il a fait un album entier qui s'appelait We May Be Cattle, But We've All Got Names. Donc nous sommes peut-être du bétail, mais nous avons tous un nom. Qui était le cri du cœur de gens qui étaient dans une salle d'attente d'hôpital, je crois. Et cet album bénéficie de la présence constante sur tous les morceaux de Holly Holsall.
C'est génial.
On s'était passé donc Dribble Dribble, qui au début est une petite chanson comme ça, et puis à la fin il y a 2 minutes de saut de guitare. C'est du sérieux. Bon, en voici une autre qui sera peut-être pas aussi bonne, mais enfin où il y a quand même du Holly Holsall qu'on entend, ça, je vous le promets. Ça s'appelle Occasions, Michael de Albuquerque en 73.
We'll be right back.
Circle des Albuquerque. C'est un morceau qui est construit un peu sur le même principe que celui qu'on a écouté la dernière fois. C'est-à-dire que le début est assez anecdotique et puis hop, à la fin, Ollie El Sol arrive et là, ça devient tout à fait génial. Quoi. Mais si.
Et il intervient quand même au début aussi avec, au vibraphone sûrement.
Ouais, bon, le début du morceau, c'est un peu poussif quand même, non ? Enfin, je sais pas. Mais après, le final est totalement incroyable. Ouais. Très bien. Ollie El Sol, guitariste de Pato, notamment.
Ouais, et ensuite de Boxer, qui était en fait Pato... Enfin, il y avait Ollie El Sol et Mike Pato dedans. C'est...
Ouais, qui étaient, disons, les forces motrices du groupe précédent. Voilà. Eh bien, on va s'écouter un autre Britannique, Kevin Coyne. C'est un petit clin d'œil à nouveau à la bande dessinée Underground, dont j'ai parlé la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, d'ailleurs, aussi. Kevin Coyne fait partie donc, de tous ces artistes plus ou moins underground, on va dire, qui sont évoqués dans cette BD, mais qui est très intéressante quand même, parce qu'il y a plein d'anecdotes, parce que la mise en image est quand même réussie, c'est assez drôle, et que des fois, on apprend quelques anecdotes. Alors là, bon, sur Kevin Coyne, il raconte que s'il a quitté l'Angleterre, c'est pas seulement parce que, bon, Thatcher est arrivé, parce que... il en avait marre de son île, il avait déjà écrit des morceaux, je pense, un petit peu quand même... assez dur sur la Grande-Bretagne. Mais c'était aussi parce qu'il avait fait un spectacle qui avait été un peu descendu par la presse, semble-t-il. Il y avait une controverse parce qu'il s'était inspiré d'une histoire vraie qui était un peu sordide, quoi, et ça avait déplu, semble-t-il. Alors j'ai relu un peu là sur Wikipédia. Bon, effectivement, il y a eu ce spectacle qui a été un peu descendu par la presse. Mais il reste encore quelques années après, hein, en Grande-Bretagne. Il a fait d'autres choses qui ont été... mieux accueilli, on va dire. Et il est parti en 85, mais apparemment avec des problèmes assez graves d'alcoolisme. Et il aurait vécu un temps, d'après la BD Underground, en Allemagne, un peu comme un SDF, en fait. Avant d'être ça c'est pas expliqué dans les BD, avant d'arrêter de picoler comme un trou et de se poser un peu et de se remettre à jouer, à enregistrer. Alors il était acteur, il était musicien bien sûr, il était peintre aussi, dessinateur, enfin il faisait des tas de choses. Et là on va revenir à son premier album solo. Donc avant ça il y avait le groupe Siren, dont les disques sont difficiles à trouver, sur le label John Peel, qui faisait du blues, enfin un petit peu dans la vague du blues britannique de la fin des 60s. Et puis il y a eu sa carrière solo qui a démarré avec l'album Case History, où là c'est encore un peu du blues, mais alors du blues mutant, hein, du blues bizarre. Et c'est le début d'une carrière qui a quand même été reconnue par beaucoup de gens, il y avait quand même son following, son pas mal de fans Kevin Coyne. Et on comprend, parce qu'il avait une voix particulière, prenante, et des morceaux tout à fait étonnants. On a écouté déjà plusieurs extraits de Case History. On va s'en écouter un qu'on n'a jamais passé encore, qui s'appelle Araby, qui est quasiment instrumental, où il marmonne par-dessus, et qui a un côté très hypnotique, je trouve, et très blues mutant, effectivement. Donc c'est Kevin Coyne, ça doit être en 70, je crois, le premier album, il faudra vérifier. L'album Case History et le morceau Araby, donc.
Dubai, 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 Dubai.
oulala, Rabbi, donc pas vraiment instrumental en fait, on me rappelle surtout des tout là. Et c'était Case History, le premier album solo de Kevin Coyne, en 1972 en fait.
Ouais. Et bien écoute Thomas,
quelle voix quand même, putain. Ah oui, je sais, excuse-moi.
Oui, ça.
À chaque fois que j'écoute Kevin Coyne, je tremble, j'ai les poils qui se hérissent. Il a une voix incroyable. C'est pas forcément sur le morceau qu'on vient d'écouter là, hein, mais sur la plupart d'entre eux. Bref, on reviendra sur Kevin Coyne tout à l'heure. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
Erickson.
Pourtant, c'est une chose que je ne fais jamais. Enfin,
Non, jamais.
Rolling Stone des années 80, là. Ouh là 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 là.
Oui, mais alors attention, c'est pas vraiment les années 80, parce qu'en fait, c'est l'album Tattoo You qu'ils ont fait avec des morceaux qui traînaient depuis les années 70. Y compris, il y a deux morceaux sur l'album dans lesquels on entend Mick Taylor, qui a dû d'ailleurs ensuite gueuler pour obtenir des royalties.
Bah oui, ils n'ont pas dû prévenir.
Oui, ben voilà, au départ, tu penses bien que, avec leur délicatesse habituelle. Bon. Mais c'était en 1980-81, ils allaient faire une tournée des États-Unis en 81, il leur fallait un album à promouvoir, ils n'avaient pas le temps de faire un album comme il faut. Et donc, leur producteur a dit, mais il y a plein de chutes là, il y a plein de morceaux, de brouillons pas finis, qui suffiraient de donner un coup de rabot, rajouter un petit coup de chiffon, puis hop, vous aurez un album. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le gars dont j'oublie le nom, dit le producteur, enfin question, dit qu'il a passé 3 mois à écouter des bandes et tout, et qu'il leur a proposé un certain nombre de morceaux. Il y a eu des morceaux qui ont été assez complétés, pour lesquels il n'existait que de la musique, ils ont écrit des paroles, enfin bon. Et au total, ça a donné un album qui a été très bien reçu, et en particulier Start Me Up, qui a été leur dernier gros tube, hein, et ça a été leur dernier album à faire un numéro 1 aux États-Unis. Donc voilà, il y avait du bon dans les fonds de tiroir. Bon, alors, c'est surtout la première moitié de l'album qui est bien, parce que la phase 2, bon. Quoi qu'il en soit, on va s'écouter un des morceaux de l'album. Alors, c'est du Rolling Stones qui ne se préoccupe pas d'être poli ou délicat. Ça s'appelle Little TNA. Et alors, le refrain, c'est « She's my little rock and roll, my tits and ass with soul, baby ».
La classe.
Voilà, TNA, c'est tits and ass, c'est une abréviation bien connue. Je crois que c'est Keith Richards qui chante ce morceau. Voilà.
Kids.
vous aurez peut-être remarqué que les parties de guitare qui accompagnent ce morceau ressemblent furieusement à celle de Happy.
Oui. Et
voilà, qui était la chanson chantée par Keith Richards sur l'album Exile on Main Street.
C'est un peu un remake, voilà. Oui.
Mais enfin, bon, c'est quand même très agréable. Keith Richards joue aussi de la basse sur ce morceau. Et il chante, donc. Et c'était un morceau dont la basic track, les bases avaient été jetées pendant les sessions de Emotional Rescue, l'album précédent des Stones, mais qui est beaucoup moins bon, à mon avis, que Tattoo You.
Voilà. Bon, j'avoue que je n'ai très peu écouté les deux. Là, on va revenir sur une autre découverte, une découverte cette fois, due à la compile, la bande dessinée Underground. Les Yahoo à 13. Ah, tu croyais pas que j'allais lâcher avec ce. Le groupe de Father Yod, le gourou de la secte de la source, donc à laquelle appartenait Sky Saxon. Et donc, il a joué, semble-t-il, sur certains disques, pas forcément de manière officielle. Et il y en a des disques, il y en a un sacré paquet. Alors, il y en a, je ne sais plus, 65 qui ont été enregistrés, paraît-il. Mais beaucoup moins qui sont sortis pour de vrai. Alors, sortis à 500, 1000 exemplaires et vendus dans le restaurant végétarien de Father Yod. C'était un de ses moyens de financement, visiblement. Et là, celui-ci, il est pas paru à l'époque, apparemment. Il est sorti en 60. Il a été enregistré. Il aurait été enregistré en 75, mais sorti seulement en 2000. Parce qu'il y a des gens qui ont réédité, quand même, les albums de Yahoo à 13.
Ça montre qu'il y a toutes sortes d'êtres humains sur la planète Terre.
Ben voilà. Il y en a même qui écoutent et qui sont fans de Yahoo à 13. Il y en a même qui les passent à la radio.
C'est difficile à croire. Hein.
Ah oui, non, c'est totalement incroyable. Et alors, il faut dire qu'une bonne partie des disques quand même de Yahoo à 13, c'est les titres des morceaux, c'est simple, c'est face A, face B. Et puis c'est des morceaux de 15 minutes parce que c'était tout improvisé, hein. Il n'y a pas de répétition ni rien. Ils se retrouvaient, je ne sais pas où, dans l'endroit où la secte était installée, peut-être dans la grande baraque de Father Yod.
Tu pouvais faire 20 albums par an comme ça.
Et ouais. Puis voilà, hop, et puis c'était parti, c'était en général à peu près improvisé. Là quand même, ils ont fait un effort, les titres s'appellent Untitled 1, Untitled 2, Untitled 3. Et on va s'écouter Untitled 6, donc tiré de The Operetta de Yahoo à 13. En 1975, accrochez-vous aux branches. Thank you.
Et quelqu'un a dit, c'est bon les mecs, on le met en boîte. Ouais.
Voilà, Yahoo à 13.
Alors, Yahoo qui doit s'écrire Y-A-H-A-W-H-A ou W-A-H.
Alors, c'est en trois mots, Y-A-Y-A-O-H-O. Et le WA s'écrit W-A ou parfois W-A-H. Et Sortine en plus. Yahoua était un autre des surnoms de Father Yod,
oui,
non, le gourou.
Il faut qu'il y ait un H à la fin, parce que tu sais, ça fait Y-H-W-H, c'est-à-dire Yod, Ha, Vav, Ha. Et c'est le tétragramme, c'est le nom qui est mis dans la Bible sans jamais mettre les voyelles pour désigner Yahvé. Jéhovah,
donc
Dieu.
Pourtant, le H, je t'assure, n'existe pas sur certaines pochettes de
mais
disques.
Mais oui, mais c'est qu'ils se sont trompés.
Le
mais
H final.
Ils étaient trop stoned. Mais, mais c'est influencé par ça. C'est le tétragramme, le fameux tétragramme qui n'est jamais vocalisé parce qu'il était interdit de prononcer le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est Yahvé ou Jéhovah ou quelque chose d'autre, mais on sait que c'est Yod, Vav, non, Yod, Ha, Vav, Ha. Voilà. Y-H-V-H.
Je sens que tu as plein de choses à dire sur ce groupe. Nous en repasserons bientôt. Untitled 6 sur l'album The Operetta. Ils en ont fait 65. Bon, je n'en ai pas trouvé 65, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Et tiens, la prochaine fois, on se fera la face A du premier album, 18 minutes.
Peut-être que tu attends une fois où je suis pas là.
Yahoua sortie, une des bizarreries découvertes dans cette bande dessinée quand même, que je recommande, qui s'appelle Underground, sortie il y a quelques temps, puisqu'ils en ont déjà fait une autre, les deux gars, là, qui elle est consacrée au, au rock alternatif français. Mmh. Je pense que ça va m'intéresser aussi.
Mmh. Ouais, en tout cas, bon, c'était une secte moins, comment dire, moins dégoûtante que d'autres. Hein, le Source, ça s'appelait, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, puis c'était bon, dédié à l'amour de la nature, enfin, bon. Ça,
ouais, le gourou se farcissait toutes les nanas, mais c'est, ça, c'est normal.
Ça, c'est inévitable. C'est, voilà. Mais bon, ça avait l'air d'être effectivement moins.
À part
c'est,
ça,
c'est pas la famille Manson, quoi.
Voilà, tu pouvais partir quand tu voulais, je pense.
Tu pouvais même faire du deltaplane. Alors,
c'est comme ça
qu'il est mort.
Alors, où en étions-nous ? Steve Harley. Alors, ce Steve Harley, là, tu vois, c'est justement à l'opposé. C'est plutôt petit bourgeois comme style de musique. Mais ça fait rien, on va s'écouter Love the Prima Donna, qui est. Alors, Steve Harley, qui est mort il y a 2-3 semaines, qui a eu son petit succès avec son groupe Cockney Rebel au milieu des années 70. Et Love's a Prima Donna, c'est la version qu'on va s'écouter, c'est la version live dans son album Face to Face de 1977.
Steve Harley.
Bon. Love the prima donna.
Ouais. Eh ben, une petite rubrique maintenant.
Allez. Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby, dig it.
La rubrique Dig It, bien sûr, avec un groupe qu'on a pas mal passé, qui s'appelait les Black Keys, et qui font partie de ces groupes qu'on passait à Dig It quand ils étaient totalement méconnus, mais qui sont devenus par la suite des groupes mondialement connus. Les Black Keys ont connu une carrière tout à fait fructueuse par la suite.
Ouais, un peu comme les White Stripes.
Comme les White Stripes, effectivement, dont on avait chroniqué... Enfin,
Black,
j'avais,
White... Bon.
J'avais chroniqué le premier album des White Stripes dans Dig It, dans le fanzine Dig It. Et personne n'aurait parié un copec sur la future gloire totalement internationale de ce groupe.
Ouais, pire que ça, c'est devenu un truc qu'on chante dans les stades de football,
mais
quand
c'est
même.
Ça, mais c'est ça, c'est ce qui est quand même incroyable. Quand tu te dis, putain, c'était le truc, on passait à Dig It, là.
Mais ouais.
Ouais, c'est fou, c'est fou. Et d'ailleurs, il y a des points communs entre les White Stripes et les Black Keys que relevait Mishka Sayas dans son... comment s'appelle déjà son émission
Very Good Trip.
Very Good Trip, oui. Voilà, qui est parfois, quand il s'intéresse à des groupes qui nous intéressent à nous, ces émissions sont très bien faites. Et donc, il relevait qu'il y avait pas mal de points communs. Bon, le côté roots des débuts, très minimaliste, etc. Le fait que tous les deux... alors un des gars, en tout cas le Dan Auerbach des Black Keys et puis Jack White des White Stripes, sont devenus producteurs, qu'ils ont eu leur propre studio, qu'ils ont commencé à sortir leurs propres trucs et qu'ils apparemment ne s'entendent pas très bien. Mais il faut dire que Jack White n'a pas la réputation d'être très un gars très sympathique. Donc il y a un petit peu de points communs. Alors bon, on n'en est pas encore à chanter les Black Keys dans les stades, mais ils ont eu quand même pas mal de succès. Alors on va les écouter à l'époque où on les passait à Dig It, où ils étaient encore totalement méconnus. Je me rappelle, c'était leur père qui nous avait... qui envoyait les disques, hein, qui nous avait fait un courrier pour remercier Dig It de le passer à la radio et tout. C'est lui un peu qui manageait la carrière de son petit à leur début. Le père de Dan Auerbach. Le batteur, son complice, s'appelle Patrick Carney, si je me souviens bien, un truc comme ça. Et on va s'écouter donc les Black Keys, alors tout début, le deuxième album sur Fat Possum, qui est un label plutôt blues. Le label de Junior Kimbrough, de R.L. Burnside. Ils reprennent d'ailleurs Junior Kimbrough sur ce disque. L'album s'appelle Thick Freakness. C'était en... j'avais vérifié la date, mais j'ai déjà oublié. C'était...
2003 par là, 2002
2003. C'était en 2003. Et on va s'écouter une reprise, une autre reprise qui figure sur cet album. Une reprise de Have Love Will Travel, qui... en soi est déjà aussi un des grands classiques de Dig It. Le morceau de Richard Berry qui a été repris 150 000 fois par tous les groupes de garage quasiment et qu'on écoutait très souvent dans des tas de versions différentes. Voici la version qu'en font les Black Keys donc en 2003 sur l'album Thick Freakness. We'll be right back. Travel, repris par les Black Keys, donc, dans la rubrique Dig It.
Eh bien, on va se passer quelque chose qui était californien, vaguement psychédélique, un peu velu sur les bords. C'est le groupe de la famille, alors je ne sais plus comment ils s'appelaient ces gens-là, parce qu'ils avaient tous des pseudonymes incroyables. Non, il n'y a pas leur nom. Enfin, Ernie Joseph et ses frères, en fait. Et ça s'appelait Big Brother featuring Ernie Joseph. À ce moment-là, ensuite, ça a changé de nom. Ça n'a rien à voir avec Big Brother and the Holding Company, hein, je vous préviens tout de suite. Ernie Joseph, il a fait d'autres albums sous son propre nom. Au moins un, en tout cas. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle ESP. Trying to the fool me, no matter how you try. Alors c'était une reprise, hein, c'était pas un morceau de... Donc c'est sorti sur l'album Confusion en 1970, mais c'était une reprise d'un groupe de Los Angeles qui s'appelait Rain,
qui a pas fait le morceau m'a dit quelque chose, mais...
Oui. Et Rain eux-mêmes se sont probablement beaucoup inspirés d'un autre morceau, hein, tu verras, on le passera tout à l'heure. le morceau de Rain, l'original de ce morceau, ESP, est sorti en octobre-novembre 1966, mais quelques temps après, un morceau beaucoup plus connu.
Je cherche trois lettres qui puissent sonner comme ça. LSD, peut-être. Ouais.
Quand on cherche trois lettres dans le rock, c'est souvent celle-là.
LSD des Pretty Things, peut-être.
Et oui, voilà, bien vu.
Ouais, ça me rappelait bien quelque chose, effectivement. Eh bien, on a écouté les Black Keys tout à l'heure, et je vous avais dit que Dan Auerbach, le chanteur-guitariste, avait fait ensuite de la production notamment, et il a produit un album de Dr. John, une des personnes qu'on passe régulièrement quand même dans les Bébés Dino. Un album tardif bien sûr, un album de 2012 qui est sans doute le meilleur des derniers albums de Dr. John. Il s'appelait Lockdown. Et c'est un peu un retour aussi vers une ambiance un peu plus vaudou, enfin une ambiance qui rappelait un petit peu les premiers albums de Dr. John, quoi. Et c'était une réussite, ce disque. Et il a eu un certain succès, d'ailleurs. Donc on va s'écouter un extrait de cet album de Dr. John, sorti donc en 2012, c'est le morceau Getaway. Et Dan Auerbach produisait, mais il jouait de la guitare aussi, et d'autres instruments. Il y a une bonne déchirade de guitare à la fin. Getaway donc, par Dr. John, en 2012.
We'll be right back. so bad. Everything I'm given, something's taken back. LSD.
Donc effectivement, c'était les Pretty Things, LSD, qui a servi de modèle visiblement à ce morceau ESP signé sans scrupule par le groupe Rain. Donc LSD, c'est sorti fin 65 sur une phase B de 45 tours. C'était la Come See Me, la face A. Et LSD donc est considéré comme une sorte de précurseur du psychédélisme. On va maintenant, donc l'année suivante, le groupe Rain le copier sous le titre de ESP. Et puis quelques années plus tard, on avait la reprise par Ernie Joseph et son groupe Confusion. Non, pardon, sur l'album Confusion. Et son groupe qui s'appelait Big Brother en 70. Maintenant, on s'approche de la fin de l'émission. Vous le savez, les bébés dinosaures, ça se termine à 23h. Et donc, on va passer à une rubrique bien connue et appréciée de nous tous, n'est-ce pas ? Et donc, dans la rubrique Fromage de Chèvre, ce soir, un artiste, que nous avons découvert grâce à Roland Wagner, en fait. Il avait inclus un de ses morceaux, du folk un peu bizarroïde, dans une de ses compiles en provenance de l'île de la Tortue, les compiles qu'il diffusait sur cassette, et qui devait s'appeler, Damned Pépite ou quelque chose comme ça. Et Jack Trees qui faisait partie de ces folkeux américains installés en France, alors beaucoup moins connus que Steve Waring ou Roger Mason. Mais qui a néanmoins sorti quelques albums. Et donc, dans cet album qui s'appelle qui n'a pas de titre, qui s'appelle rien, c'est pour ça que je ne me souvenais pas du titre, qui est sorti vers 1980, surtout composé d'instrumentaux. On va s'en écouter un qui s'appelle Casimir. Thank you. Casimir, donc, avec Jack Trees au banjo. Eh bien, ceci conclut l'émission du Bébé Dinosaur pour aujourd'hui, dimanche 14 avril. On se retrouvera... Oui, alors ça c'est le morceau suivant, hein, y a les vagues de la mer. On se retrouvera le 21 avril, bien entendu, de 21h30 à 23h, comme tous les dimanches, pour les Bébés Dinosaures sur Canal Sud 92.2 MHz ou partout dans le monde sur www.canalsud.net. On se retrouve aussi 8 jours après l'émission d'origine, les lundis de 15h30 à 17h en rediffusion, sur les mêmes moyens de communication et sur le fameux site là dont je vous ai cité l'URL www.canalsud.net. On trouve aussi les archives de beaucoup d'émissions anciennes des Bébés Dinosaures, environ 600, que vous pouvez trouver par divers moyens en naviguant sur le site. Je vous signale aussi qu'il existe une page Facebook des Bébés Dinosaures. Alors c'est moins commode parce que pour remonter dans l'historique des pages Facebook, bah ça prend un peu plus de temps. Mais là aussi on trouve des liens qui vous permettent de récupérer les MP3 de pas mal d'anciennes émissions ou de les streamer à votre gré. Donc c'est fini, on s'écoute le jingle de fin et on se dit bonne nuit. Voyons, est-ce qu'on va y arriver ? On va y arriver.
Never really gone.
No.
Never really gone.
He's-